Bonjour, et bien avec Elisabeth, nous nous retrouvons pour l'émission Les mots de la foi. Nous lisons l'exhortation apostolique La joie de l'amour. Et dans notre dernière émission, nous avions évoqué les fragilités qui contreviennent justement à ce que l'amour s'exprime librement. Et après la fragilité liée au contexte familial, aux migrations, au handicap, à la vieillesse, eh bien nous abordons aussi d'autres aspects. Notamment, c'est au numéro 49, la situation des familles submergées par la misère. Misère de toutes sortes d'ailleurs.
Oui, et le pape insiste sur un exemple particulier qui est celui des femmes qui doivent élever seules leurs enfants à cause d'une séparation ou d'autres raisons, qui doivent travailler et donc laisser leurs enfants plus ou moins seuls. Et dans les situations les plus difficiles, l'Église doit être capable de les comprendre, de les intégrer, sans chercher, dit le pape, à leur imposer une série de normes, comme si ces normes étaient un roc qui fait que les gens se sentent jugés.
Oui, alors ça c'est tout à fait intéressant parce que là on sent effectivement ce souci de la compassion et de la miséricorde qui est un peu le caractère de cette encyclique. Et de ce fait, face à ces difficultés, vieillesse, handicap, solitude des femmes seules pour élever leurs enfants, en fait il ne se paie pas de mots parce que c'est pas le tout d'avoir un évêque qui rend visite et puis ou bien d'autres et qui, ça fait la une des médias, ça fait de belles photos. Mais ça n'aide pas forcément les gens. Donc là, il est beaucoup plus concret et il passe au défi que cela représente pour l'Église.
Oui, alors le premier défi dont il parle, il en a déjà parlé, c'est l'éducation.
Alors ça, c'est tout à fait intéressant parce qu'il évoque de façon très réaliste, on a l'impression qu'il prend le train le matin pour aller travailler et qu'il revient le soir fatigué. Et il nous dit... Les parents arrivent à la maison fatigués, sans envie de parler. Dans de nombreuses familles, il n'y a même plus l'habitude de manger ensemble. Et une grande variété d'offres de distraction abondent, en plus de l'addiction à la télévision. Donc là, on a l'impression qu'il ne vit pas dans un nuage.
Oui, oui. Et il ajoute, tout ça peut générer une grande anxiété, et anxiété sur ces questions éducatives qui peut être doublée par l'insécurité économique, les craintes d'avenir, etc.
Voilà, alors donc là, il évoque aussi les différentes addictions qui sont négatives et qu'il évoque de façon très concrète. Alors, première addiction, la toxicomanie.
Oui, la toxicomanie, il précise, il y a l'alcoolisme, le jeu, toutes les autres addictions et qui mettent la famille en péril. Ça entraîne des ruptures, des familles brisées, des enfants déracinés, des personnes âgées abandonnées. Et des situations de violence familiale.
Oui, voilà, c'est-à-dire que, alors que la famille peut être le lieu qui est considéré comme un havre de paix, où une fois qu'on est rentré, on ferme la porte et enfin, on peut, entre guillemets ou sans guillemets, se lâcher, être soi-même, échanger en ayant confiance, eh bien, dans certains cas, c'est impossible, parce que la communication n'existe pas, parce que les relations deviennent conflictuelles et violentes, ou dit le pape. La violence intrafamiliale est une école de ressentiment et de haine dans les relations humaines de base. Voilà. Ce qui l'amène à évoquer le rôle des familles comme socle de la société. Et à l'inverse, il nous dit « Personne ne peut penser qu'affaiblir la famille comme société naturelle fondée sur le mariage soit une chose qui favorise la société. »
Oui, il dit « C'est le contraire qui se passe. » À la culture des valeurs communautaires, au développement moral des villes et des villages, on va substituer l'individualisme.
Voilà, alors il y a ça, il y a aussi la famille comme lieu stable, comme lieu d'engagement entre les personnes, et puis comme lieu où se font et s'élèvent les enfants.
Oui, il dit, on doit reconnaître la grande variété des situations familiales, qui peuvent offrir une certaine protection, mais les unions de fait ou entre personnes de même sexe, par exemple, ne peuvent pas être placidement, dit le pape, comparées au mariage.
Voilà, alors il observe justement, ça c'est au numéro 53, l'évolution des alternatives au mariage. Alors, les alternatives d'hier, et notamment, il cite, la polygamie, dans d'autres contextes, les mariages arrangés, et puis il évoque, aujourd'hui, c'est la cohabitation, la vie en commun avant le mariage, la cohabitation sans aspirer, d'où dit-il, à un lien institutionnel. Il rappelle que les législations favorisent ces alternatives et qu'ainsi la destruction juridique de la famille progresse.
Oui, parce que le mariage peut apparaître comme quelque chose d'obsolète dans nos sociétés.
Un vrai panorama de la réalité, d'où, et ça nous en sommes au numéro 54, bien que de notables améliorations aient lieu dans la reconnaissance des droits des femmes, alors là, on évoque aussi la situation des femmes.
Oui, avec la violence qui continue à s'exercer sur les femmes, les abus dans le cercle familial, des formes variées d'esclavage, la violence verbale, physique et sexuelle qui s'exerce sur les femmes dans certaines familles contredit la nature de l'union conjugale.
Et alors il évoque aussi, tout simplement aussi, cette soumission des femmes à cause, enfin disons, un machisme traditionnel. L'histoire porte les marques des excès des cultures patriarcales, sans oublier aussi les sociétés où il y a des mutilations génitales des femmes. Donc, on voit cette instrumentalisation hier du corps féminin, mais alors, aujourd'hui, qu'en est-il ?
Oui, parce que dans la culture médiatique actuelle, il y a aussi une forme d'instrumentalisation du corps féminin.
Voilà, oui, c'est ça, on ne voit que « sois belle et jolie » et puis tais-toi, « sois blonde et... »
Et jeune.
Et jeune, ouais. Et le pire, c'est qu'à partir de 30 ans, déjà, on est vieux, d'après les médias. J'ai l'impression, quelquefois. Enfin bon, allez, ça, c'est un petit coup de langue méchante de ma part. Bon, et il nous dit d'ailleurs, c'est faux, ce n'est pas vrai, c'est une forme de machisme. Lorsque certains considèrent que les progrès de l'émancipation de la femme ont fait naître les problèmes. Donc là aussi, c'est... Je trouve que c'est intéressant que ce soit un vieux pape qui dise cela.
Et il dit « Nous admirons une œuvre dans l'esprit, dans la reconnaissance plus claire de la dignité de la femme et de ses droits. »
Voilà. Hommes et femmes, et au numéro 55, il évoque aussi la dégradation d'image masculine dans les médias.
Oui, il dit beaucoup d'hommes sont conscients de l'importance de leur rôle dans la famille, et ils le vivent vraiment. Mais l'absence du père marque gravement la vie familiale.
Et aussi notamment la carence qui prive les enfants d'un modèle de référence, ce qui nous amène à poser la question du genre. Alors c'est vrai que là, on retrouve les défileurs de la Manif pour tous, mais le pape ne s'attache pas à cela. Par contre, il reprend de façon très structurée cette question. Un autre défi apparaît sous diverses formes d'une idéologie généralement appelée « gender », qui nie la différence et la réciprocité naturelle entre un homme et une femme.
Oui, et cette idéologie induit des projets éducatifs des orientations législatives qui encouragent une identité personnelle et une intimité affective coupées de la diversité biologique entre masculin et féminin.
C'est-à-dire on choisit quoi ? L'identité humaine, on choisit d'être homme ou femme. Oui. En fait, il y a quand même quelques réalités qui... biologiques, dirons-nous. Et il analyse, en approfondissant cette affaire, il est inquiétant que certaines idéologies de ce type prétendent répondre à des aspirations parfois compréhensibles et que cela devienne une pensée unique qui détermine l'éducation des enfants.
Il ne faut pas ignorer que le sexe biologique et le rôle socioculturel du sexe peuvent être distingués, mais non séparés.
Alors, là aussi, c'est vrai que la chirurgie, la procréation humaine a été favorisée par la science, par la médecine, par des progrès médicaux. Mais si on peut dissocier parentalité, procréation de l'union sexuelle de l'homme et de la femme, bon, bah quand même, ce qu'on met, c'est quand même toujours, ça vient toujours quand même de l'homme et de la femme. Jusqu'ici, on n'a quand même pas fait la synthèse de la vie. Mais cela paraît être indépendant. Donc, effectivement, cela pose question. Et alors, là, le pape pose, lui, une réflexion. Comprendre la fragilité humaine ou la complexité de la vie, c'est une chose. Mais accepter des idéologies qui prétendent diviser les deux aspects inséparables de la réalité, ça, c'est autre chose. Et c'est là qu'il intervient comme théologien. Lorsqu'il y a faute, ce n'est pas une faute morale ou une faute, mais véritablement à l'encontre du Créateur. C'est là que se situe le péché pour lui.
Il dit, ne tombons pas dans le péché de prétendre nous substituer au Créateur. Nous sommes des créatures, nous ne sommes pas tout-puissants.
Et il évoque, la création nous précède et doit être reçue comme un don. Ce qui nous appelle à sauvegarder notre humanité, l'accepter et la respecter. Et puis, au numéro 57... Eh bien, il est optimiste. Après avoir évoqué toutes ces difficultés, le pape François est optimiste. Je rends grâce à Dieu du fait que beaucoup de familles, qui sont loin de se considérer comme parfaites, vivent dans l'amour.
Et qu'elles, il continue, elles vont de l'avant, même si elles tombent souvent en chemin.
Ah, ça, j'aime bien aussi la phrase suivante.
Un stéréotype de la famille idéale ne résulte pas des réflexions synodales, mais il s'en dégage un collage qui interpelle, constitué de nombreuses réalités différentes, remplies de joie, de drames et de rêves.
Et puis la conclusion est aussi intéressante. Ne tombons pas dans le piège de nous épuiser en lamentations autodéfensives au lieu de réveiller une créativité missionnaire. Donc, que l'Église ne nous assène pas des comme étant rabat-joie, mais au contraire, qu'elle ressente la nécessité de dire une parole de vérité et d'espérance.
Et le pape dit, si nous voyons beaucoup de difficultés, elles sont un appel à libérer en nous les énergies de l'espérance en les traduisant en rêves prophétiques, en actions qui transforment, et en imagination de la charité.
Eh bien voilà, nous terminons ce chapitre et nous terminons aussi l'émission. Donc je vous dis bonne semaine à tous. Et puis n'oubliez pas d'aller lire cette exhortation apostolique, La joie de l'amour. Il n'y a pas de jargon théologique et il y a des pages humaines qui sont quand même très importantes. Nous essayons de les partager à la radio, mais si vous avez l'occasion de lire ce livre, c'est un petit chef-d'œuvre. Bonne semaine à tous.